7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. À la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous nous intéressons aux violences conjugales et aux répercussions sur les enfants. 700 millions de femmes seraient victimes de violences conjugales dans le monde, selon la Banque mondiale. En France, 150 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs compagnons. Mais il existe aussi un chiffre moins connu. 1 million d'enfants seraient directement témoins de coups entre leurs parents en France. Alors, quelles conséquences pour eux? Quelles sont aussi les réponses de la justice et de l'aide sociale à l'enfance? Comment protéger les femmes victimes de violences? Est-il souhaitable de maintenir un lien entre le père violent et ses enfants s'il n'est pas violent avec eux? Nous allons en discuter avec nos invités. Parmi eux, le sociologue Benoît Bastard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et vous publiez un livre au titre tout de même assez provocant. Un conjoint violent est-il un mauvais parent? Marie-Laurence Parinet, vous êtes quant à vous psychologue, psychanalyste. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes spécialisée dans ces problèmes de violence conjugale, entre autres. Et nous sommes également en ligne avec une avocate, Janine Bonaggiunta, avocate au barreau de Paris du cabinet Tomasini Bonaggiunta. Bonjour.
Bonjour.
Maître Bonaggiunta, vous avez également beaucoup travaillé sur des dossiers de violences portées à l'encontre de femmes par leurs conjoints. Et quant à vous, les voisines et les voisins, bien évidemment, vous avez la parole. N'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler si vous vous sentez concerné par le sujet des violences conjugales. 33 1 84 22 71 71. Benoît Bastard, un conjoint violent est-il un mauvais parent? C'est vrai que la question apparaît comme, vue de loin, vraiment provocante.
Oui, le titre original du livre était plus long, l'éditeur n'en a pas voulu, mais le titre original du livre, c'était quelque chose comme un conjoint violent est sans doute, les conjoints violents sont sans doute des mauvais parents, mais leurs enfants n'en ont pas d'autres. Autrement dit, c'était une manière de souligner le fait que les violences sont condamnables, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il faut protéger les mères, il faut protéger les femmes, il faut protéger les enfants, mais il faut faire attention à ce qu'on fait au moment où on le fait, parce que la question de la relation de ces enfants vis-à-vis de leurs parents, au pluriel, et en particulier du parent violent, peut devenir une question délicate.
D'autant plus que nous sommes en France, et vous évoquez là une action sociale, finalement une administration de l'action sociale qui est prise en tenaille, et la justice aussi, entre deux positions idéologiques.
Oui, on veut faire deux choses à la fois aujourd'hui, de façon très, très nette, très forte, et deux choses qui sont en réalité incompatibles. D'un côté, il y a l'impératif de plus en plus fort de maintenir des relations entre les enfants et leurs parents après les séparations, et y compris après les séparations dans lesquelles il y a eu de la violence. On considère que c'est important pour le développement des enfants de pouvoir maintenir des relations avec le parent avec lequel ils ne vivent pas. Et de l'autre, on veut lutter contre les violences, et on veut pour ça, on veut presque couper un père violent de ses enfants, et ça pose problème de vouloir faire ces deux choses-là à la fois. Comment fait-on ?
Marie-Laurence Parinet, psychologue, psychanalyste, quel est votre point de vue sur cette apparente contradiction idéologique ou cette difficulté de concilier les deux nécessités ?
Moi, j'ai envie de dire d'abord, nous nous adressons à des êtres humains, donc il n'y a que des individualités et des cas particuliers. Donc faire des généralités, déjà, c'est quelque chose de difficile. Je crois que la question, c'est quand même de protéger l'enfant. C'est la question de la protection de l'enfant, n'est-ce pas ? Certes, l'enfant n'a qu'un seul parent, n'a qu'un père et n'a qu'une mère. Mais et puis qu'est-ce qu'un bon parent? Eh bien, enfin moi, la première réponse qui me vient, c'est un parent susceptible de protéger son enfant. Donc voilà, dans quelle mesure le parent. Alors c'est pas le parent violent, n'est-ce pas? C'est le conjoint violent. Est-il susceptible ou non de protéger son enfant? La première réponse, bien entendu, c'est que
là on parle d'un conjoint violent qui serait violent avec son autre conjoint. Alors en général, c'est quand même l'homme qui est violent violent à l'encontre de la femme, hein, mais qui n'est pas nécessairement violent avec ses enfants.
Hein, voilà, on a bien dit ça. On a dit
bien de ces cas de figure-là.
On a bien dit qu'on
évidemment
que
dans
violent.
Le cas où le père est violent avec ses propres enfants, évidemment que là il faut
entendu.
Que les enfants soient protégés, donc séparés de leur, du père.
Voilà. Mais dans quelle mesure un parent violent avec son conjoint protège-t-il son enfant? Une réponse qui vient aussi, c'est non, parce que il l'expose à la violence, tout simplement à la violence de ce que vivent les parents entre eux.
Ça veut dire quoi pour les enfants? Quelles conséquences pour des enfants qui sont témoins directs de violence? Vous soulignez, Benoît Bastard, que 2/3 des femmes qui sont victimes de violence indiquent que leurs enfants sont témoins. Alors si c'est pas des témoins oculaires directement dans la pièce, du moins ils entendent le bruit de la violence dans la pièce d'à côté. Quelles sont les conséquences pour
ils
les enfants?
Ils entendent ou aussi ils peuvent voir leur mère le lendemain maculée ou en pleurs ou en souffrance, quoi qu'il en soit. Bah, la conséquence, c'est la souffrance d'abord. C'est que l'enfant, au nom d'un principe de loyauté, je dirais, est tenaillé entre son père et sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas appartenir à un camp plutôt qu'à un autre. Donc l'enfant
ça veut
est
dire
écartelé.
Qu'il se retrouve en insécurité affective, qu'il a du mal à se concentrer, par exemple à l'école, etc. Qu'il se retrouve dans une situation inextricable.
Oui, et puis l'enfant, pour se construire, n'est-ce pas, a besoin de sécurité affective. On va dire ça comme ça, et c'est source d'une très grande insécurité.
Maître Janine Bonadjunta, vous êtes avocate et spécialisée dans la protection des femmes. Est-ce que la protection des femmes, quand il y a une réponse judiciaire, ça s'accompagne de la protection des enfants? Comment ça fonctionne avec la justice?
Alors pas toujours malheureusement, et c'est bien notre souci, parce que protéger l'enfant et avoir des bonnes décisions dans l'intérêt de l'enfant nécessite quand même un certain professionnalisme, ce que n'ont pas toujours les magistrats, qui ne sont pas formés à cette problématique. Car bien souvent, l'idée reçue est qu'un mauvais mari peut être malgré tout un bon père. Mmh. Or moi, j'estime que protéger son enfant, ça n'est pas de lui faire subir les violences indirectes qu'un homme fait subir à sa femme, et l'enfant est témoin de ses actes, et par conséquent, il n'est pas protégé pendant ce temps. Il assiste à des scènes extrêmement violentes, même derrière une porte. Il entend des cris, il entend la mère qui est battue, il la retrouve parfois ensanglantée. Donc j'estime que ce père n'est pas un bon père, à mon sens.
Benoît Bastard, vous souhaitez réagir quant à l'idée reçue sur laquelle vous vous interrogez. Un conjoint violent est-il un mauvais parent?
Oui, je suis d'accord entièrement avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on sait maintenant que pour les enfants, être exposé au fait que les parents, qu'il y a de la violence dans le couple, hein, que et très précisément de la violence de l'homme sur la femme, on sait que être spectateur de ça, c'est comme être maltraité soi-même. C'est des mauvais traitements. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, ce que je dis, c'est qu'on peut pas avoir de solution simple ni radicale. On peut pas faire porter sur le parent victime le fait que c'est à lui de protéger l'enfant. Bien sûr, il devrait le faire, mais on sait que bien souvent, il en est incapable. Et la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'avenir pour cet enfant? Comment est-ce qu'on fait pour protéger l'enfant aujourd'hui? Bien sûr, il faut le mettre à l'abri des retombées de ses coups immédiatement, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Et là, on voit les deux choses, parce qu'il y a ceux qui disent il faut le mettre à distance de ce parent violent pour qu'il ne reproduise pas ses comportements dans l'avenir, voilà une chose, et puis ceux qui disent oui, mais si on le coupe entièrement de ce parent violent, eh bien on risque d'avoir dans l'avenir un enfant qui est à la recherche d'une figure paternelle qu'il aura diabolisé ou qu'il aura idéalisé, et ça, c'est pas une bonne chose non plus. C'est pour ça, il n'y a pas une seule réponse.
33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard. Nous parlons des violences conjugales aujourd'hui et des conséquences sur les enfants, et quelle doit être la réponse des États, de la justice. Faut-il protéger les femmes qui sont battues et en même temps les enfants, et donc avec une séparation totale d'avec le père ou pas? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On attend vos témoignages. The streets I go, everybody's in me, don't know. I meditation, strict dedication.
medication, straight from the roots I go. I'm on my way, I'm on my way, though the journey is so rough, I got to carry on. I'm on my way, I'm on my way, though the journey is so rough, I got to carry on. The night is getting cold, no place to rest my head. Stone became my pillow, concrete became my bed. Although the journey's long, got to keep on pressing on. The battle will be won at the end of the day. I'm on my way, I'm on my way. Though the journey is so long, got to carry on. I go, everybody see me, don't know. I meditation, strict dedication, straight from the roots I grow. At the end of the day, all of your children say, clean hands, pure heart, righteous heart, and the Most I will guide your way. I know when I get there, it won't be a sudden flight. Been toiling from sun up, still toiling through the night. Bless me with endurance, so I'm keeping up the fight. I'm never giving up the way, as long as I got life.
On my way, Etana, chez 7 milliards de voisins, sur RFI, à la veille de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous nous intéressons aux violences conjugales et aux conséquences sur les enfants. Maître Bonadjunta, vous êtes au téléphone avec nous, vous travaillez sur de nombreux dossiers de femmes victimes de violences par leur conjoint. Aujourd'hui, comment la justice appréhende la protection des femmes, c'est-à-dire quelles sont les différentes mesures judiciaires pour protéger les femmes?
Alors, pour protéger les femmes, il y a un arsenal de lois, enfin surtout la loi du 9 juillet 2010 qui est apparue novatrice, on va dire, puisque c'est une loi qui est spécifique pour les femmes. Et
sachant que la dernière loi de 2014, une loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoit elle aussi tout un volet et des articles sur la protection des personnes victimes de violences et évidemment les femmes en première ligne. Hein.
Tout à fait. Donc ces lois tendent à considérer que c'est une circonstance aggravante que de faire subir à une femme des violences, qu'elles soient psychologiques, physiques, sexuelles, économiques. Il y a effectivement des lois, il y a des articles du code pénal et du code civil qui considèrent qu'il s'agit d'une circonstance aggravante. Alors ça c'est dans les textes, mais sur le terrain, l'appréciation des magistrats est plus nuancée, et notamment sur la notion de violence psychologique. On a beaucoup de soucis pour faire reconnaître à un magistrat la violence psychologique.
Subie par les enfants qui sont témoins.
Alors, même subi par les enfants. Alors, on a un principe sur le plan juridique. Depuis 2002, la France a instauré ce qu'on appelle la coparentalité, c'est-à-dire une égalité entre les parents en matière d'autorité parentale. D'accord ? C'est un principe fondamental, incontournable du droit de la famille, qui encourage l'égalité père-mère. Alors, même quand il y a des violences, il faut vraiment en apporter la preuve sur la mère. Oui, il y a un article qui prévoit, l'article du Code civil, qui précise des critères sur lesquels doit s'appuyer le magistrat pour fixer le droit de visite et d'hébergement. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il doit considérer plusieurs critères et aussi, à savoir, par exemple, la pratique antérieure qui était suivie par les parents, les sentiments exprimés par l'enfant lorsque l'enfant est capable de discernement, l'aptitude, bien sûr, de chacun des parents. Hein, souvent, il y a des expertises psychologiques ordonnées par le juge aux affaires familiales. Et donc, considérer les résultats des expertises. Mais aussi, il doit prendre en considération, normalement, un sixième élément, qui sont les pressions ou violences à caractère psychique qui ont été exercées
à l'égard de la conjointe, là.
Voilà. Mmh. Le texte dit exercé par l'un des parents.
Mais concernant les circonstances aggravantes, si par exemple un conjoint violent est violent avec sa femme, enfin sa concubine, et les enfants en sont témoins, est-ce que là c'est une circonstance qui alourdit
là on est sur le plan civil. Mmh. Sur le plan pénal, on estime qu'il s'agit d'une circonstance aggravante. Mais on peut considérer aussi que le code civil l'a prévu, puisqu'il établit ce critère pour fixer le droit de visite et d'hébergement. Mmh. Donc, normalement, il doit prendre en considération les violences exercées par les...
Donc, ça veut dire que normalement, la justice doit relier la protection de la mère et celle de l'enfant. Sur le papier.
C'est tellement difficile pour l'enfant que, dans ces cas-là, comme il y a ces violences, par exemple, la résidence alternée aura du mal à s'exercer. Une semaine chacun, ça va être compliqué, compte tenu du conflit existant entre les époux et compte tenu de la difficulté du passage, comme on dit, le passage de bras d'un enfant, etc. Donc, il estime que dans ces cas-là, il est plus prudent, en tous les cas, dans un premier temps, hein, de manière temporaire, de fixer un centre médiatisé où l'enfant va se retrouver avec, effectivement, des professionnels. Et hors présence de la mère n'aura pas accompagné l'enfant, elle pourra le faire accompagner par un tiers, etc.
Pour le tenir éloigné du conflit et de maintenir un certain lien avec le conjoint violent. Benoît Bastard, vous souhaitez intervenir?
Oui, beaucoup a été fait pour que le droit et que la justice reconnaissent les violences conjugales et maintenant les violences auxquelles sont associés les enfants. Bon, il y a encore beaucoup à faire, en particulier sur... comment on prend en considération ça. Il y a encore pas longtemps, j'étais dans un commissariat et j'entends le policier devant tout le monde dans la salle d'entrée qui dit « Eh madame, c'est vrai qu'il vous a répété 6 fois qu'il allait vous tuer ?» Donc c'était une façon extrêmement violente de s'adresser aux gens.
Et la formation des forces de police,
voilà,
etc.
J'en ai parlé avec le policier, il m'a dit « Mais il faut que les violences soient réitérées, c'est pour ça que j'ai dit ça. » Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il le disait devant tout le monde. Et que, voilà. Or, pour ça, beaucoup de choses sont déjà faites. Vous avez cité la loi de 2010, mais il y a maintenant les ordonnances de protection qui sont une chose importante, qui s'adressent autant donc l'idée qu'on met à distance une personne victime de violence du conjoint violent, et les enfants avec. Donc l'interdiction d'écrire, de s'approcher, d'envoyer des messages, etc.
Des mesures d'éloignement, etc.
Des mesures d'éloignement. Et ça, c'est une bonne chose, et ça a été renforcé en 2014. Là où les choses sont un peu compliquées, c'est que maintenant, il y a la tendance à vouloir aller plus loin et dire que, puisque c'est un mauvais père, on va limiter les contacts des enfants avec lui, voire les supprimer.
Et c'est là où la loi vous êtes plus inquiet finalement, êtes nettement plus...
Moi je pense que la violence conjugale, c'est un phénomène massif contre lequel il faut lutter, en même temps on ne peut pas, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et par exemple, dans la dernière loi qui a été votée à l'été 2014, la loi pour l'égalité réelle, je ne sais pas bien ce que c'est que l'égalité réelle,
entre
on peut en
les
discuter
hommes.
Entre les femmes et les hommes, il y a un article qui dit que maintenant, le tribunal pénal, le tribunal correctionnel, va devoir prendre position sur la question de l'autorité parentale. Il pouvait le faire avant, maintenant il va devoir le faire. Donc on oblige les juges à prendre position, et quelquefois c'est dans des affaires de comparution immédiate, où ça se passe très vite, où il y a peu d'éléments, il n'y a pas eu de rapport d'enquête sociale très approfondi, et on va dire au tribunal correctionnel qu'il doit prendre position, alors peut-être pour maintenir des relations, mais peut-être pas. Et ça, c'est un peu préoccupant qu'on veuille aller plus loin dans une sorte d'interdiction des contacts enfants-parents.
Dans l'optique de protéger encore davantage les femmes de la violence de leur conjoint, on risquerait finalement de couper l'enfant de son père biologique dont il a besoin pour grandir, même si celui-ci est violent avec sa mère.
Oui,
c'est ça.
C'est le risque.
Marie-Laurence Parinet.
Encore une fois, il n'y a que des cas particuliers. Bien entendu, l'enfant a besoin de son parent pour se construire. N'est-ce pas, a besoin de cette altérité. Maintenant, si c'est un parent dangereux pour lui, qui ne lui permet pas de se construire, dans quelle mesure la rencontre est-elle nécessaire?
Oui, vous pensez qu'un père violent, il est violent avec sa femme, il ne peut pas être dans l'attention à l'enfant, finalement, d'une certaine manière, parce qu'il est envahi par sa haine, etc.
Pas tout le temps. Ce conjoint violent, n'est pas qu'un homme violent avec son épouse.
On va y revenir, bien sûr. Hein. Vous restez avec nous, on parle des violences conjugales, comment protéger les femmes et les enfants dans 3 minutes.
7 milliards de voisins. on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons des violences conjugales aujourd'hui à la veille de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, chaque année, on a plus de 200 000 femmes qui sont victimes de violences commises par leurs partenaires. Selon la Banque mondiale, on aurait près de 700 millions de femmes victimes de violences de leurs conjoints, avec l'Asie du Sud-Est en première ligne, l'Afrique subsaharienne, mais globalement tous les continents, tous les pays, tous les milieux sociaux sont concernés. En France, on a environ 10% de femmes qui portent plainte. Évidemment, c'est insuffisant. Vous pouvez nous appeler parce que on essaye de comprendre quelles sont les conséquences sur les enfants et comment peut-on protéger à la fois les femmes de la violence de leurs conjoints et les enfants lorsque ceux-ci sont témoins de la violence subie par leur maman. 33 1 84 22 71 71. On en discute avec nos invités. Benoît Bastard, vous publiez Un conjoint violent est-il un mauvais parent? Vous êtes sociologue. Marie-Lance Parinet, vous êtes psychanalyste et psychologue et vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et puis également, une avocate est au téléphone avec nous, Janine Bonaggiunta du cabinet Tomasini Bonaggiunta, et qui travaille fréquemment sur des dossiers qui vont au pénal de femmes victimes de violences de leurs conjoints. Alors, comment protéger les femmes victimes menacées par leurs conjoints? Les violences conjugales, c'est vrai, aujourd'hui font l'objet d'une vraie mobilisation politique dans plusieurs pays depuis plusieurs années. Un exemple, avec la mise en place en France d'un téléphone très grand danger, c'est un système qui a été également mis en place dans des pays comme l'Espagne. Téléphone très grand danger ou téléphone grave danger, plusieurs noms, c'est l'un des nouveaux dispositifs en tout cas mis en place pour protéger les femmes. Il est donné après la décision d'un procureur de la République à des femmes qui ont déjà été victimes de violences par leur compagnon ou leur ex-compagnon et qui encourent, on estime, un danger très important. C'est un téléphone en apparence comme un autre, mais l'une des touches est en fait un bouton d'appel d'urgence qui met la victime en relation avec un système de téléassistance. Pas besoin de s'identifier, le service de téléassistance demande immédiatement l'intervention de la police et ces téléphones ont été testés pendant 5 ans dans quelques tribunaux français, puis généralisés depuis septembre. Près de 300 femmes en ont déjà bénéficié, évidemment c'est très peu. L'une d'entre elles qui vit en région parisienne a accepté de témoigner anonymement au micro de Charlie Dupiot. Mais dans l'enceinte même du tribunal, en présence de son assistante sociale, avec sa voix modifiée, c'est pas évidemment l'idéal pour se confier. Son ex-conjoint a fait d'ailleurs l'objet de plusieurs condamnations et elle a bénéficié de ce téléphone d'alerte pendant 6 mois.
J'ai subi des violences par rapport à mon ex-compagnon. On s'était séparés parce que le monsieur, il a commencé à lever les mains sur moi. C'est pour ça que je n'ai pas accepté, je suis parti. Mais on a gardé quand même un lien parce qu'on avait un enfant. Mais après, au bout de 3 ou 4 ans, c'est là qu'il a recommencé vraiment à venir chez moi, à me frapper. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi, mais il est devenu violent. Pas avec la petite, hein, juste avec moi. Et là, j'ai porté plainte à plusieurs reprises et j'ai fait des mains courantes, j'ai fait beaucoup de choses, mais bon, il y a eu plein de condamnations, mais je n'ai respecté rien du tout.
Quand vous dites monsieur, en fait, c'est pour désigner votre ex-conjoint.
Voilà, parce que je n'ai pas envie de dire le nom. Ça faisait 2 ans que j'avais des harcèlements téléphoniques, physiques. Ils venaient n'importe quand chez moi. Sincèrement, j'avais peur. Et quand j'entendais la porte sonner, j'étais... Des fois, je n'ouvrais même pas la porte, quoi. J'étais tellement stressée, je croyais que c'était lui, quoi. Je ne me sentais pas protégée du tout. Je ne me sentais pas protégée. Je me sentais laissée pour compte. Une fois, il est venu à 2h du matin de chez moi. Il a sonné, j'ai appelé les policiers, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont emmené au commissariat. 2 heures après, ils l'ont relâché. Le monsieur, il est revenu chez moi. Et j'ai appelé encore les policiers, ils l'ont venu le prendre encore, ils l'ont emmené au commissariat, ils l'ont relâché. Il est encore revenu et au bout des 3 fois, j'appelais plus, quoi. Il a sonné, bah, il est reparti. Mais avec la police, le temps de s'identifier, de passer d'un service à l'autre, bah, pour moi, c'est déjà trop tard, quoi. Et c'est là qu'ils m'ont proposé les téléphones d'urgence. Je vais y aller utiliser deux fois quand même. J'avais appuyé, mais la première fois, j'ai cru voir le monsieur. Il était dans le train, j'ai cru le voir. Parce qu'il y a un moment, j'avais l'impression que je voyais partout, quoi. J'ai cru que c'était lui. J'étais tellement paniqué que j'ai appuyé. Mais quand j'ai eu le téléphone, ça m'a quand même rassuré parce que je me disais, en cas de danger, je sais qu'au-delà, il y avait quand même des personnes qui pouvaient intervenir en tout moment. Et c'est ça qui me rassurait plus. Et on s'était fait cette petite rituel entre moi et ma fille. Quand quelqu'un sonne, la fille, elle prend déjà le téléphone. Et si c'est le monsieur, même s'il m'attaque moi, la fille, elle peut appeler. Elle a quand même 9 ans, elle sait déjà comment téléphoner. Pour moi, c'était quand même un petit miracle. Enfin, on me reconnaît en tant que victime. On s'occupe enfin de moi. Et voilà, on prend en compte quand même ma détresse. Voilà.
Marie-Laurence Parinet, comment vous réagissez-vous en tant que psychologue, psychanalyste par rapport à ce témoignage et sur l'efficacité des téléphones d'alerte sur la sécurité psychologique de ces femmes qui vivent quand même dans un grand stress, hein?
C'est mieux que rien. Elle a son téléphone, ça la sécurise. Mais moi, je pense à l'enfant, parce que tout à coup, j'avais pas bien entendu, mais j'entends qu'il y a une petite fille.
Et confie le téléphone au cas où elle pourrait plus téléphoner, appuyer sur la touche elle-même.
Elle est elle-même victime, mais pas l'enfant. Elle a dit, le père ne s'en prend pas à l'enfant. Mmh. Mais on entend dans tout le témoignage à quel point l'enfant...
Mais l'enfant est victime tout autant, sinon plus que sa mère. C'est là parce que l'enfant n'a aucune protection. La maman non plus, bien entendu, mais psychologiquement, l'enfant n'est pas fini, si je puis dire.
Et associé en permanence aux événements,
aucun moyen psychologique de se protéger un tant soit peu. Donc l'enfant est victime ô combien, sinon plus que sa mère. Et de quelle façon est-il protégé là? Alors on entend avec le téléphone, bien non, pour lui, le téléphone est une souffrance supplémentaire. Enfin, il n'a pas sa place dans ce scénario.
Dans les travaux qui portent sur les violences conjugales, on montre que l'enfant, dans un premier temps, cherche à se mettre à l'écart, ne veut rien entendre, rien voir, fait comme si ça n'existait pas. Dans un deuxième temps, cherche à faire des alliances avec un parent ou l'autre. Et puis que, dans un troisième temps, il peut lui-même se mettre à utiliser le moyen de la violence pour nuire à son parent, en réalité. Donc, il y a ce côté-là qui est dangereux.
Janine, Maître Bonadjunta.
Oui, je voulais préciser que des enfants disent d'ailleurs à des enquêteurs sociaux qui sont désignés lors des audiences devant le juge aux affaires familiales, quand papa mettait la clé dans la serrure, je me demandais ce qui allait se passer ce soir. Oui. Donc, ils sont quand même exposés, ces enfants, aux violences du couple. Et ils sont directement...
Même si eux-mêmes ne sont pas directement victimes de violences, hein, précisons bien que là, on parle des cas où le père est violent avec sa conjointe, mais pas avec ses propres enfants.
Moi, j'estime qu'ils sont... les violences que font subir ces hommes créent un climat tellement de danger, d'insécurité, de peur, que l'enfant est dans un état de terreur, de stress. Et je dis et je confirme que ça nuit au développement de l'enfant. Et d'avoir subi cela, retourner ensuite chez son père avec un droit de visite d'hébergement, c'est très difficile pour lui. C'est très difficile d'avoir une relation normale. Il faut lui laisser le temps.
Et moi, je dis que l'enfant est victime dans ce cas de violence psychologique, enfin dans le cas où il est témoin des violences entre son père et sa mère, et que il faut que ce soit pris comme tel, et que effectivement ensuite dans les relations qu'il aura avec son père, de considérer ces violences dont il a été victime et dont il est susceptible d'être victime dans la continuité s'il est instrumentalisé. Ça, c'est un mot que nous n'avons pas utilisé dans le conflit entre le père et la mère.
Mais c'est un autre souci, si vous me permettez, c'est le on en parle, mais peut-être qu'il est bon d'en parler aussi, c'était la crainte d'un syndrome d'aliénation parentale par le père.
Oui, mais là, vous noircissez le tableau.
Il peut complètement dénigrer la mère, comme il l'a fait jusque-là, avec des propos blessants, avec des propos insultants envers la mère, lorsqu'il voit l'enfant, lorsqu'il accueille l'enfant à son domicile.
Il faut faire attention à l'usage de ce concept.
Dans les dossiers de conflit, on rencontre énormément de pères qui salissent entre guillemets, la mère, de manière extrêmement grave. Donc l'enfant qui entend en permanence que sa mère est une prostituée, que sa mère est une mauvaise mère, est une mauvaise femme, l'enfant, il est aussi
autant impacté. De difficultés pour l'enfant, effectivement, après de se construire. On vous rappelle tout de suite le numéro de téléphone parce que vous êtes plusieurs à patienter au standard pour vous exprimer. Tout de suite, le rappel du numéro.
7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins.
Les voisins, les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous.
33 1 84 22 71 71.
Et c'est maintenant, appelez vite. On vous attend.
Nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Sarah, nous vous écoutons.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à l'antenne, Sarah.
Oui, je vous appelle justement pour relater un petit peu mon histoire. J'ai subi des violences conjugales par violence physique et par violence psychologique. Donc les enfants ont bien sûr étaient témoins de ces violences. Et donc il y a eu une séparation. J'ai pu récupérer mon aîné puisque le père n'était pas son père, donc j'ai pu récupérer le premier. Le deuxième, j'ai pu le récupérer parce que le père me menaçait de violence et limite d'avoir des recours un peu de mort, entre guillemets. Donc j'ai fait une demande auprès du juge des affaires familiales de résidence de l'enfant, puisqu'en fait je suis venue m'installer sur la région parisienne.
Et finalement, c'est votre mari qui a eu la garde de votre deuxième enfant, c'est-à-dire de son enfant biologique. Hein, c'est ce que vous avez dit au standard, et d'où votre étonnement. Mais est-ce que votre mari, qui a été violent avec vous, violence physique, violence psychologique, avez-vous dit, a fait l'objet de condamnation par la justice?
Non, pas du tout.
Et vous avez porté plainte, vous, ou jamais?
J'ai posé juste des mains courantes, puisqu'en fait, c'était assez...
Oui.
On va dire que c'était dans les dernières années. Mmh. C'était une personne qui, suite à des frustrations...
Pourquoi vous n'avez pas porté plainte, Sarah?
Parce que je pense qu'on rentre dans une...
Vous aviez peur d'une guerre? Vous aviez peur d'une guerre, finalement, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y avait déjà eu une première séparation où j'avais eu la garde des enfants. Je suis quand même retournée avec cette personne...
Alors,
je pense qu'il y a plusieurs degrés de violence.
Ouais. Alors aujourd'hui, oui, c'est ça. Vous avez jugé que les violences dont vous étiez victime n'étaient pas suffisamment violentes pour porter plainte. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire?
Non. Je pense que c'est aussi la peur d'aller porter plainte et le regard que ont les personnes, puisqu'une fois il y a eu une intervention de la part des policiers à domicile, et comme monsieur travaille dans le ministère de la justice,
Ah, d'accord. De quel genre de violence physique vous étiez victime, Sarah?
Dès qu'il y avait une frustration, dès que ça n'allait pas, il me frappait. Après, il prenait l'enfant, comme votre émission se porte sur les répercussions de l'enfant, il prenait l'enfant et me rendait coupable des larmes de l'enfant. Donc, il prenait l'enfant dans les bras et ainsi, il pouvait justifier encore plus le fait de me frapper.
Et votre mari a récupéré la garde de cet enfant-là parce que vous n'étiez plus géographiquement au même endroit, en gros. Enfin, il a obtenu gain de cause.
Il a eu gain de cause.
Il n'est pas violent lui-même avec son enfant, hein, si ce n'est qu'il lui a fait subir des violences psychologiques.
Mais il est avec mon aîné.
Avec l'aîné qui n'était pas son enfant biologique. Alors déjà, Maître Janine Bonadjunta, je pense que vous aurez envie de réagir en tant qu'avocate, parce que là, le cas de Sarah, on a très peu de femmes qui portent plainte concrètement en justice.
On a très peu de femmes qui portent plainte.
La main courante n'est pas une plainte. Hein, déposer une main courante...
La main courante n'a pas de valeur juridique. C'est une présomption de preuve, mais qui a été faite, si vous voulez. C'est une déclaration qui est faite par une personne... Bon, c'est tout. Ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, la plainte...
Aujourd'hui, la police est en principe fortement incitée à accompagner la femme victime de violence pour qu'elle dépose une plainte.
Nous sommes d'accord. Mais dans la pratique, ça n'est pas aussi évident parce que, malheureusement, les services de police, en tous les cas, lorsqu'elles sont accueillies par certains policiers, ils confondent conflit conjugal et, si vous voulez, les violences conjugales. Le conflit conjugal, ça peut arriver, mais ça se passe dans une situation équilibrée entre un homme et une femme, en général. Mais la violence conjugale, c'est complètement déséquilibré. Ouais. C'est un homme qui manipule, qui a de l'emprise sur une femme. Donc on est dans un autre cas.
Le fait que Sarah n'ait pas porté plainte, c'est ce qui fait qu'elle a perdu la garde de son enfant et que son mari a pu récupérer la garde de son enfant ?
Totalement, parce qu'on peut ne pas porter plainte et avoir en sa possession d'autres éléments. À savoir des certificats médicaux, des attestations de voisins, etc., qui permettent de faire une procédure, hein, pourquoi pas une citation directe devant le tribunal correctionnel, ou en tous les cas, de commencer à voir ne serait-ce qu'un juge des enfants et lui expliquer qu'il y avait des violences.
Alors là, tous les trois, comment vous réagissez au témoignage de Sarah, qui est toujours en ligne avec nous ? Est-ce qu'on est dans un cas typique de défaillance, d'accompagnement des femmes victimes ? Marie-Laurence Parier ?
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que on sait que malheureusement très peu de femmes portent plainte et elles ne le font pas parce que elles sont sous emprise.
10% hein, des femmes qui portent plainte.
Elles ont peur et elles ont peur parce qu'elles sont sous emprise.
Sarah disait, j'avais peur d'entrer dans une guerre finalement.
Voilà, tout à fait.
C'est vrai qu'il y a un des principes, et c'est notre avocate, on a parlé, c'est la coparentalité aujourd'hui. Donc on cherche partout des solutions plutôt consensuelles. Et donc on est quelquefois assez mal équipé.
Auxquelles vous adhérez largement.
Tout le monde adhère. Ça, c'est pas moi qui a les solutions consensuelles.
Moi, j'adhère pas. Mais si.
Moi non plus. Pas dans les cas de violence. Pas du tout. Voilà. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que le fait que la coparentalité soit le principe qui est en arrière-plan de tout notre droit de la famille maintenant, empêche quelquefois qu'on voit ces violences bien. Et par exemple, l'ordonnance de protection, on sait que le juge aux affaires familiales, c'est quelque chose auquel il ne se résout pas facilement de faire appel. C'est pas dans sa culture. Et dernier point, j'aimerais qu'on demande à Sarah qu'est-ce qu'elle pense de les rapports que ses enfants ont avec le père.
Ouais, il ne semble pas qu'elle soit avec son père.
Son père, enfin en tout cas le deuxième, il ne me semble pas qu'elle soit opposée à ce que cet enfant soit son père. Elle veut surtout qu'on reconnaisse qu'elle était victime de violence, mais elle ne met pas en cause véritablement la capacité de ce père à être un père.
Alors, je ne mets pas en avant le fait que j'étais victime de violence, c'est surtout cette incompréhension qu'il y a au niveau c'est ce qu'on nous entend, ce qu'on entend quand on va voir des avocats ou les juges. J'avais une preuve comme quoi monsieur avait envoyé un mail à son avocat justifiant ses gestes à mon égard. Donc on n'a pas tenu compte.
Mais sur le fond, Sarah, sur le fond, pour pas qu'on aille trop dans les détails techniques de votre affaire, parce qu'évidemment, sinon c'est compliqué à suivre pour nos auditeurs, mais sur le fond, est-ce que malgré tout ce que cet homme vous a fait subir, vous estimez que cet homme peut continuer à être un père capable de s'occuper de votre enfant dont il a la garde ?
Bah oui, compte tenu de sa personnalité, oui. Je pense que ça restera un bon père avec des limites dans l'apprentissage du bon développement de l'enfant. Puisque moi, l'enfant, il exprime sa frustration par de la colère et de la violence. Donc il reproduit ce qu'il a vu. Donc je travaille dessus avec une psy et lui. Mais je pense que la notion de coparentalité, elle est importante. Que l'enfant, malgré, il n'est pas dupe, il sait beaucoup de choses, il perçoit beaucoup de choses. Après, il y a plusieurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs stades de violence.
Marie-Laurence Parinet, merci Sarah pour ce témoignage. Il faut qu'on accueille d'autres auditeurs qui souhaitent s'exprimer.
Oui, Marie-Laurence Parinet, c'est bien Sarah, j'entends que cet enfant est accompagné psychologiquement parce que je pense que c'est important qu'il le soit parce que il a été témoin de toute cette violence. Il a été témoin de la violence sur son demi-frère ou sa demi-sœur aussi, et aussi nous ne savons pas dans quelle mesure aujourd'hui ce papa qui certes peut-être un bon papa, à supposer de savoir ce qu'est un bon papa d'ailleurs, mais peut aussi exercer de l'emprise, de la violence.
Pour vous, l'enfant
sur
est d'une certaine
enfant.
Manière victime
donc,
de la coparentalité. Là, pour vous, c'est pas
oui,
forcément l'idéal.
En tout cas, c'est important effectivement qu'il soit accompagné encore aujourd'hui et pour le temps nécessaire par un tiers, par un professionnel, pour qu'il ait un espace de parole bien à lui.
Nous accueillons un voisin qui nous appelle du Tchad au 33 1 84 22 71 71, une voisine plutôt, Modestine, bonjour, vous avez la parole.
Bonjour Emmanuel, je voulais vous dire je suis avec ma voisine à côté de moi qui le fait toujours dessus de son mari. Et quand il commence à frapper que sa femme, les enfants viennent. Maman vient voir papa est en train de taper maman.
Oui, alors la ligne téléphonique est assez mauvaise, Modestine. Donc pour ceux qui vous entendraient mal, votre voisine se fait taper, se fait tabasser par son mari. Les enfants affolés viennent trouver refuge, c'est vous. C'est bien cela, hein?
Oui, ouais. Oui. Maman vient voir papa qui est en train de taper sur maman. Quand je viens, il dit si tu ne sors pas, je te tue.
Ah oui, avec carrément des menaces de mort. Oui. Et alors vous... Vous ne savez que faire?
Oui, et si je peux porter plainte contre lui, ou bien faire quoi? Parce que quand je vais venir, ils vont dire tu n'as pas le droit de venir porter plainte. Et je demande à sa femme, lui dit, elle fait ça souvent, mais ça ne marche pas.
Alors évidemment, c'est plus compliqué dans des pays où il y a moins de réponses judiciaires immédiates. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut déjà sur le plan psychologique, je voudrais avoir votre point de vue, Marie-Laurence Parinet, qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui accueille des enfants qui viennent trouver refuge du fait des violences dans un foyer?
Ben, de les accueillir, c'est formidable, et puis de les rassurer, et puis de prendre ce rôle de bon parent au fond aussi. Bon parent, il y a qui est un parent qui protège, qui rassure, qui réconforte ses enfants, qui leur permet de prendre un peu de distance avec ce qu'ils vivent de difficile.
On est en ligne avec Victoire qui nous appelle... Non, pas encore. Alors, Benoît Bastard, vous souhaitez prendre la parole, je vous en prie, puisqu'on est en attente d'avoir un auditeur.
Bien, dans ce cas-là, oui. Un mot sur... moi, je pense que la question de la coparentalité est vraiment centrale et que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on ait des éléments, des moyens pour des personnes qui ne parviennent pas à s'entendre, parce qu'il y en a. Donc, on peut pas préjuger que tout le monde va s'accorder là-dessus. Et il y a des dispositions qui existent, qui permettent, qui donnent des ressources dans ces cas-là. Je pense aux espaces de rencontre, c'est-à-dire les lieux... pour l'exercice, enfin, dans lequel un enfant peut rencontrer son parent, ce parent qui est un parent à problème, hein, des parents avec des addictions ou des parents violents quelquefois, et il peut le faire dans un cadre sécurisant, c'est-à-dire pas au domicile, pas à son domicile peut-être, pas au domicile de l'autre parent, mais dans un cadre extérieur, et disons sous le regard, avec des professionnels qui sont là, et qui peuvent aider à ce que cette parentalité se joue dans qu'on n'ait pas une coparentalité, mais des parentalités dans des espaces différents.
Et ça permet quoi au conjoint violent lorsque on lui permet de voir son enfant, de continuer à avoir une relation avec son enfant?
On le fait pas pour le conjoint violent, on le fait pour l'enfant d'abord. C'est-à-dire l'idée que on voit dans ces lieux que les enfants, alors que ils sont très dépendants de leur relation avec leurs parents, avec lequel ils vivent, ils peuvent aussi avoir une relation avec ce parent problématique en dehors de l'autre, et que cette relation puisse se construire dans l'avenir. C'est quelque chose à quoi ils pourront se référer. Hein, ils pourront se dire mon père, je l'ai connu, ou ma mère quelquefois, je l'ai connu bien dans ce lieu-là. Donc c'est très important de pouvoir construire des espaces de ce genre.
Juste une petite chose par rapport à l'auditrice précédente, n'oublions pas quand même qu'il y a une maman qui est sous la menace des coups et que peut-être y a-t-il matière quand même aussi à essayer de la sortir de cet enfer en allant
voir la police, hein,
tout
déjà.
Simplement, oui, voilà.
Oui. 33 1 84 22 71 71, nous sommes en ligne avec Victoire, une voisine qui nous appelle. Vous nous appelez d'Abidjan, Victoire, si j'ai bien compris?
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, Victoire.
Oui, j'ai un problème qui me fatigue, qui me traumatise beaucoup. Je suis mariée à 23 ans avec un Togolais qui vit en Italie. Mmh. On a fait deux garçons un garçon de 5 ans et de 7 ans. Mmh. Mais depuis que je me suis mariée avec lui, il n'a pas frappé, j'ai appelé la police 3 fois, il a été arrêté 3 fois. Maintenant, il n'arrête jamais. Son problème, c'est qu'il est...
Vous avez appelé la police en Italie ou en Côte d'Ivoire, hein, Victoire?
Non, on a fait ça à Lomé.
D'accord,
autour. Donc, il prend la drogue. Donc, la police, le commissaire m'avait dit que... la manière dont il prend la drogue, beaucoup, ça fait qu'il est tout le temps nerveux, qu'il est agressif. Donc, de se séparer avec lui. Maintenant, on s'est séparé, ça fait 1 an. J'ai donné les enfants à ma mère parce que quand on s'est séparé, il m'a menacé de mort.
Oui.
Il va chercher les gens pour me poignarder dans la rue, la nuit, si je sors. Donc, comme j'ai peur, ma famille m'a envoyé aussi à Abidjan. Maintenant, ça fait 3 semaines qu'il est en
prison. Ça veut dire que finalement, vous avez protégé vos enfants et vous-même par des mesures d'éloignement. Vous vous êtes vous-même finalement auquel vous êtes vous-même astreinte. Ce n'est pas la justice qui a procédé à l'éloignement de votre mari violent.
Non, non, ce n'est pas la justice. Le commissaire m'a dit que ça va prendre beaucoup de temps, que nous sommes en Afrique, que ça ne fait pas.
Oui, d'accord.
Et ils ont tenu à la violence de s'éloigner
Victoire, on arrive au terme de cette émission, mais évidemment votre témoignage est édifiant. Maître Bonadjunta, vous avez été l'avocate d'une femme battue qui risquait la prison à perpétuité en France pour avoir tué son mari violent. Elle a finalement été acquittée au nom de la légitime défense. C'est un cas extrêmement rare, il faut le savoir, en France. Il y a donc encore des femmes qui sont condamnées pour leur meurtre le meurtre de leur mari. Alors que la violence dont elles sont victimes est avérée depuis des dizaines d'années.
Oui, tout à fait. Et nous nous battons pour cela, car nous avons effectivement une femme qui nous a appelé pour que nous intervenions en appel de son verdict, puisqu'elle a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour avoir tué son mari.
Au Canada, les femmes battues bénéficient de ce qu'on appelle une présomption de légitime défense. Est-ce que ça change quelque chose? Ça protège davantage des femmes qui en sont arrivées à cette extrémité-là?
C'est essentiel, parce que ces femmes sont considérées dans leur souffrance. Elles sont en état permanent de légitime défense. Tous les jours d'être agressées dans son psychisme, dans son physiquement, ça leur permet, on estime que ça leur permet de se défendre à tout
moment. De se reconstruire. Merci beaucoup à tous les trois, Maître Bonadjunta, Marie-Laurence Parinet et Benoît Bastard. Vous signez Un conjoint violent est-il un mauvais parent? Ça c'est pour votre livre, Benoît Bastard. À demain.